Tu es le Christ. Cette profession de foi de Pierre est souvent considérée comme un sommet de l'évangile, et même un tournant dans l'évangile de Saint-Marc, puisque, effectivement, à partir de là, à partir de ce moment-là, Jésus commence à enseigner à ses disciples qu'il va beaucoup souffrir, qu'il va être mis à mort, et qu'il ressuscitera. Cette profession de foi de Pierre est effectivement un événement majeur, mais surtout parce qu'il en déclenche un autre, autrement plus grand, qui est la transfiguration de Jésus. Nous sommes ici aux environs de Césarée de Philippe, c'est-à-dire au pied de la montagne où 6 jours après, Jésus est transfiguré, ses disciples contemplent sa gloire. Voilà, voilà le sommet de l'évangile. Le Christ transfiguré. Et si nous avons fêté ce 14 septembre, hier, la fête de la Croix glorieuse, c'est parce que c'est 40 jours exactement après le 6 août, la fête de la transfiguration. Les deux sont indissociables, la gloire et la croix. Il y a 5 montagnes principales dans l'évangile. La première, c'est celle sur laquelle le diable, au moment des tentations désertes, emmène Jésus pour lui montrer tous les royaumes du monde, leur faste, la gloire terrestre. La deuxième, probablement la plus connue, c'est celle des béatitudes, c'est-à-dire du sermon sur la montagne. La troisième, donc, la transfiguration. La quatrième, c'est le mont des Oliviers qui achève la montée à Jérusalem. Face au temple, il y aura bien sûr Gethsémani sur le mont des Oliviers, mais avant un enseignement de Jésus, face au temple, il est interrogé par ses disciples en disant « Maître, dis-nous, quel sera le signe que tout cela va se terminer ?» Et puis enfin, le Golgotha. Là où s'accomplit la promesse, quand je serai élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Ces 5 montagnes, il faut les avoir à l'esprit, parce qu'elles représentent 5 ascensions de la vie spirituelle, de la vie chrétienne. Évidemment, au quotidien, le combat contre les tentations, le renoncement progressif à la gloire terrestre. Le deuxième, le plus important, évidemment, le sermon sur la montagne. La loi de l'amour, l'alliance nouvelle, la loi de l'esprit. Et rien que pour en prendre un seul élément, la règle d'or. La règle d'or, faire aux autres ce qu'on voudrait qu'ils fassent pour nous. Si déjà on ne vivait qu'avec cette règle. Au centre, la contemplation du Christ transfiguré. Le Christ toujours au centre. Le mont des Oliviers symbolise la remise de notre confiance entre les mains du Père, à reprendre jour après jour. Et puis enfin, le Golgotha, c'est le passage obligé que nous vivrons tous par la mort pour entrer dans la vie. Le catéchisme, dans sa quatrième partie sur la prière, contient une expression très étonnante qui m'a beaucoup marqué cet été, sur laquelle je reviendrai un autre jour, mais que je mentionne simplement. Il parle du drame de la prière. Le drame de la prière, expression étonnante. Pour la comprendre, il faut dire, et c'est mon propos aujourd'hui, que la prière, c'est une montagne. Je ne veux pas seulement dire qu'on s'en fait souvent une montagne. La prière est véritablement une montagne, c'est-à-dire le lieu de la rencontre de Dieu par excellence, dont le premier effet, c'est déjà de porter notre regard vers le haut, vers le ciel. Et quand on regarde une montagne, de chercher ou d'imaginer un chemin, une ascension. La prière, je vous disais fin août, c'est l'élévation de l'âme vers Dieu. Voilà ce que symbolisent les montagnes. Et ceux qui aiment la montagne, qui en sont familiers, qui y vont souvent, savent qu'elle est avant tout une école d'humilité. Une école d'humilité. On n'y va pas tout seul, sans s'y être préparé. C'est un lieu d'épreuve, c'est un lieu qui est dangereux, qui est à la fois fascinant et dangereux. Mais c'est beau, c'est grand, c'est immense, c'est sacré. Et on pourrait inventorier les montagnes dans la Bible. de l'Ancien Testament, j'en retiens simplement trois. Évidemment, là où Moïse reçoit les tables de la loi. Dans le livre de l'Exode, comme dans le livre du Deutéronome, c'est deux livres qui racontent ce don de la loi. La montagne, le terme, rien que le terme, apparaît une quarantaine de fois, beaucoup plus que dans les autres livres des lois, le livre des Nombres, les Lévitiques, ou dans le livre de la Genèse, c'est la deuxième montagne, c'est pas celle de Moïse, c'est celle d'Abraham. C'est là où Dieu appelle Abraham avec son fils pour justement lui offrir, pour faire ce sacrifice ultime avant qu'il ne l'arrête. Et Abraham donne à ce lieu, cette montagne, ce nom si fort, Dieu pourvoit. La providence de Dieu, Dieu pourvoit. La montagne, c'est un espace sacré qui a quand même cette troisième fonction dans l'Ancien Testament d'être aussi un lieu de refuge. Et là, il y en a toute une série d'histoires, depuis Lot qui se réfugie dans les montagnes, depuis les émissaires de Josué, on pourrait comme ça les énumérer. C'est le lieu qui à la fois nous rapproche du Très-Haut, qui est un lieu de révélation, la révélation de la grandeur de Dieu, mais c'est aussi, je vous disais, un lieu dangereux, un lieu d'épreuve, et un lieu de protection. On comprend dès lors la question qui est posée dans l'évangile de Saint Jean par la Samaritaine à Jésus. Sur quelle montagne est-ce qu'il faut aller adorer? Et c'est une question qui est toujours actuelle, c'est de dire, quel est le meilleur lieu pour prier? Quelle est la meilleure église? Quelle est la meilleure façon de prier? Et la réponse de Jésus transcende toute dispute sur les façons de prier, sur les lieux de prière, en disant Dieu est esprit et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et en vérité. C'est ça qui compte, c'est le fond du cœur, en esprit et en vérité qu'il faut prier. C'est ce que dit le grand livre de prière de l'Ancien Testament, le livre des psaumes, c'est ce qui dit la grandeur de Dieu. Où chaque fois, très souvent, il y a cette comparaison justement, les sommets des montagnes sont à lui. Voilà pourquoi la prière est une montagne. C'est un lieu de révélation, également de protection. C'est un lieu d'épreuve. En tout cas, comme la prière, ce n'est pas un lieu de tranquillité. Mais c'est le lieu où l'amour de Dieu, souvenez-vous du prophète Élie, l'amour de Dieu se manifeste dans le murmure d'un souffle fragile, dans la force du silence de celui qui cherche Dieu, et Dieu vient combler son cœur. Cet été, c'était le 16 juillet, nous avons fêté Notre-Dame du Mont Carmel, la montagne d'Élie, le Mont Carmel. Notre-Dame du Mont Carmel, c'est la seule dévotion particulière qui a été gardée après le Concile dans la réforme liturgique, qui a une place tout à fait particulière dans la tradition et par laquelle on invoque Notre-Dame du Mont Carmel, aujourd'hui Notre-Dame des douleurs, Notre-Dame de compassion, Notre-Dame de l'espérance, comme nous lui demandons sa protection pour parvenir, dit la prière, à la montagne qui est le Christ. Voilà quelle peut être effectivement notre prière à nous. Vous vous rappelez qu'au tout début de l'évangile, juste après l'Annonciation, lorsqu'elle rencontre l'ange, lorsque l'ange lui apparaît, Marie se lève et elle part en hâte vers sa cousine Élisabeth, et le texte dit très clairement, vers le pays des montagnes, vers le pays des montagnes en Judée chez sa cousine Élisabeth pour témoigner sa charité. La prière est une montagne. Cette montagne, c'est le Christ. C'est la montagne de la charité. À gravir sans cesse, sans jamais abandonner.